Avant de commencer, Anne, je voulais te remercier de me permettre de parler aujourd'hui devant tous ces enseignants. Je suis un peu intimidée, je vous avoue. En même temps, je suis très contente parce qu'il y a des visages que je connais et je suis contente de parler devant ces visages-là et devant les autres. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de espace intérieur, espace extérieur et seuil dans La Zapatera Prodigiosa de Federico García Lorca. Et pour commencer, j'aimerais partir de Jeunette, qui définit le seuil du texte comme tout ce qui entoure le texte, c'est-à-dire le paratexte, le titre, le sous-titre, le nom de l'auteur, le résumé, etc. Et après sa définition, comment on peut définir le seuil dans un texte théâtral? Est-ce qu'on peut considérer que tout ce qui entoure le texte dramatique comme seuil peut être pris en compte? Et s'il faut dans ce cas interroger les didascalies comme seuil dans la mesure où elles se situent dans un entre-deux, puisqu'elles ne sont pas hors texte, contrairement au titre ou au résumé, mais elles ne sont pas prononcées à voix haute non plus par le comédien, contrairement aux répliques. Pour Anne Hubersfeld, les didascalies sont, avec le dialogue, ce qui compose, je la cite, « deux parties distinctes mais indissociables du texte théâtral ». Dans son ouvrage « Lire le théâtre », elle dédie de nombreuses pages à énumérer les types de didascalies et leurs fonctions, montrant ainsi le rôle spécifique et pluriel de ces annotations qui font le texte oral sans lettres. Si je pars de ce constat, c'est parce que j'aimerais étudier cette question du seuil, de l'entre-deux, dans l'œuvre théâtrale qu'est La Zapatera Prodigiosa, d'abord en proposant une délimitation des espaces intérieurs et extérieurs que l'on identifie et qui sont créés dans le texte, et ensuite en identifiant et analysant le lieu du seuil, de l'entre-deux, et ce justement en utilisant en premier lieu les didascalies. Nous verrons que le personnage de la savetière est à un seuil par ce qu'elle représente. D'une part, la femme enfermée, cloîtrée dans l'espace intérieur du foyer, mais qui désire s'émanciper vers le lieu extérieur qu'est la rue. Si on la regarde depuis cet angle, la savetière est alors la représentation de la femme, en règle générale, dans la société espagnole du début du XXe siècle, idée qu'il faudra expliciter. Mais les espaces intérieurs et extérieurs et la frontière floue qui délimite et s'étend aussi aux autres personnages et jusqu'au public qui peut, au cours de certaines scènes ou grâce à certains procédés à la dimension fortement métalittéraire, traverser le quatrième mur qui le sépare de la scène et peut, le public, s'introduire sur cette scène. Donc on a aussi ces espaces intérieurs et extérieurs qui touchent cette fois le public. Mon objectif, c'est donc de proposer une étude des dynamiques entre espaces intérieurs et extérieurs et de leurs frontières, que j'appelle seuil, afin d'avancer la conception de personnages entrouverts, c'est-à-dire dans l'entre-deux, qui se répand à tous les acteurs de la pièce théâtrale, public et auteur inclus. Pour cela, je débuterai avec une rapide contextualisation historique de la place de la femme dans l'Espagne des premières décennies du XXe siècle, visant à montrer qu'elle se situe dans un entre-deux, entre progressisme et conservatisme, ce qui la situe au niveau d'un seuil que l'on pourra reconnaître dans un second temps comme étant aussi le lieu où se trouve la savetière. Cette deuxième réflexion nous conduira à nous pencher dans un troisième temps sur la spécificité de la place du public, également attirée depuis l'extérieur de la scène théâtrale vers son intérieur dramatique. Et donc je vais commencer avec cette première partie que j'ai intitulée « La place de la femme dans l'Espagne du XXe siècle ». Et avant de la débuter, j'aimerais vous dire qu'elle est très, on va dire, schématique. J'ai vraiment voulu vous proposer une contextualisation et un résumé. Évidemment, je pense que c'est beaucoup plus précis et il faut beaucoup plus développer cette question. C'est vraiment pour donner une image et une contextualisation. La critique s'accorde à considérer la figure féminine comme primordiale chez Lorca, et des thèses et des articles scientifiques sont dédiés à cette question, qui rappelle la plupart du temps la situation spécifique de la femme dans la société espagnole à la veille de l'arrivée de la Seconde République au pouvoir. Pour cela, pour faire cette contextualisation que je vous présente, je vais faire référence à un ouvrage en particulier qui est l'ouvrage « Historia de las mujeres en España y América Latina » qui est dirigé par Isabel Morán. Dans l'introduction de cet ouvrage, Guadalupe Gómez Ferré explique que, je la cite, « El siglo XXI será el siglo de las mujeres, pero el siglo XX ha sido el siglo en el que las mujeres han obtenido la plena ciudadanía ». Elle explique que cette citoyenneté est triple, tout d'abord parce qu'elle est politique. les femmes obtiennent le droit de vote en Espagne en 24 sous la dictature de Primo de Rivera, même si ce droit de vote est considéré comme un faux droit, on no donne la nada. Mais au début des années 30, quand elles l'obtiennent sous la Seconde République, c'est un vrai droit. Cette citoyenneté, c'est aussi une citoyenneté sociale grâce à une forte politique d'alphabétisation et d'accès à l'éducation qui marque toute la première partie du XXe siècle. Et enfin, c'est une citoyenneté civile, puisque les femmes, grâce au droit de divorce ou à celui de disposer de leurs propres biens, par exemple, obtiennent plus d'autonomie. À cela, l'autrice que j'ai citée ajoute que si jusqu'à tard, dans le XXe siècle, les femmes ne tiennent pas un discours féministe revendiqué, on peut néanmoins prendre en compte ce qu'elle appelle une conciencia feminista qui a permis de réclamer plus d'égalité, je la cite à nouveau, « al menos en el ámbito social ». Et donc, je commence avec la fin du XIXe siècle et les premières décennies du XXe. Dans le premier chapitre de Historia de las mujeres en España y América Latina, intitulé Radicalismo político, feminismo y modernización, María Dolores Ramos débute son analyse en 1889, c'est-à-dire à la charnière du XIXe et XXe siècle, et finit en 31, c'est-à-dire avec l'arrivée à la tête de l'État de la Seconde République. Elle montre dans son travail comment les femmes réclament petit à petit le droit de voter, comment elles s'émancipent à travers certaines attitudes, par exemple l'accès au travail comme secrétaire, l'adoption de coupes de cheveux à la garçonne et surtout le fait de conduire des voitures. Elle rappelle que, néanmoins, l'impératif de la maternité persiste. De la même façon, elle décrit la réception de ces attitudes féministes timidement revendicatrices par le reste de la majeure partie de la société et identifie comment ces phénomènes annoncent déjà les réformes adaptées plus tard par la Seconde République. Et j'ai donc voulu vous rapporter ces paroles. C'est la citation numéro 1 que vous avez sur le PowerPoint. Je la lis. Desde el universo de normas, discursos y valores que tan minuciosamente había perfilado el ideal burgués de domesticidad en el siglo XIX, cualquier modelo alternativo se consideraba un festival de desorden femenino. El testimonio de un mundo patas arriba, poblado por mujeres heterodoxas, rebeldes, radicales, dispuestas a servirse de la función socializadora ligada a la maternidad biológica y social para acabar con el modelo confesional. Ese aparente desorden obedecía a un proyecto firme y coherente, vivir en laico. Su caldo de cultivo era la libre conciencia y su expresión política, la república. Le droit de vote, qui marque l'entrée de la femme dans la vie citoyenne espagnole, annonce un tournant pour sa situation. Dans le chapitre « El sagrado derecho de votar », du livre que j'ai cité en début de partie, Rosa María Capel propose une histoire de l'accès au droit de vote des femmes espagnoles. Elle rappelle sa situation au XIXe siècle, mais aussi l'émergence d'un discours féministe dès 1948. Je la cite donc dans cette citation où elle dit « Las primeras décadas del siglo XIX no fueron favorables a la causa feminista al triunfar los ideales de maternidad republicana y de ángel del hogar. Al permanecer inconmovible la jerarquía de los sexos en la organización sociofamiliar. Sin embargo, las mujeres volverían a cuestionar las estructuras vigentes con la razón como aliada. La ilustración alumbraba así otro hijo no deseado, el feminismo, cuyo primer documento, la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, se redacta en 1848. Par ailleurs, Capel rencontre des demandes suffragistes de certaines femmes travaillant dans les milieux ouvriers barcelonais dès la dernière décennie du XIXe siècle, revendications interrompues par la Première Guerre mondiale, mais qui reprendront après celle-ci avec la présentation de plusieurs pétition pour le vote féminin auprès du registre du Congrès dès 1919. Ainsi, la fin des années 1920 et de la dictature de Primo de Rivera, même si elle expose des avancées timides en ce qui concerne la place de la femme dans la société espagnole, révèle un changement symbolique dans ce droit de vote en la nada obtenu. Par ailleurs, à cette citoyenneté politique s'ajoute la citoyenneté civile à travers l'éducation. Et pour cela, on a les travaux de Pilar Ballarín qui, dans La Educación de las Mujeres en la España Contemporánea, montre comment la première partie du XXe siècle voit émerger une préoccupation pour l'éducation des femmes, en particulier dans les classes moyennes, qui proposeront plusieurs initiatives pour démocratiser l'accès au savoir. Cela est rendu possible, selon l'autrice, grâce à la convergence de la révolution démographique, il y a moins de mortalité et l'espérance de vie est plus longue, et le développement de l'économie qui permet l'intégration des femmes au milieu du travail et en particulier dans les milieux ouvriers. Elle rappelle néanmoins qu'il faut attendre la Seconde République et ses mesures démocratiques et progressistes pour voir apparaître un changement notable dans les relations d'égalité entre hommes et femmes. Selon Guadalupe Gómez Ferré, que j'ai cité précédemment, je la cite à nouveau, « La Segunda República, insisto, trajo muchas cosas, y es evidente que, aunque con limitaciones para las mujeres, puso en marcha un régimen democrático que favoreció la movilización y el inicio de un cambio en las relaciones de género. » Elle rappelle que ce changement a aussi été appuyé par l'implication des femmes dans la guerre civile, qui les a mobilisées de diverses façons, mais souligne les limites de ces tentatives de changement dans la mesure où les valeurs traditionnelles et conservatrices étaient profondément ancrées dans la conscience du peuple espagnol, chose qui a limité les changements en ce qui concerne les rôles de genre de chacun. Néanmoins, la Seconde République a bien réformé les milieux du travail, de l'éducation et de la citoyenneté. Pour rendre compte des nombreuses réformes proposées, ne serait-ce que dans le domaine de l'éducation par le gouvernement républicain, on peut à nouveau citer Pilar Payarín qui explique que, c'est cette citation numéro 3, « El periodo republicano será eco de los proyectos progresistas, se encontrará en 1931 con un elevado índice de su analfabetismo y con casi la mitad de la población sin escolarizar, y hará un gran esfuerzo por revitalizar la enseñanza en general. » Creación de 27.000 escuelas primarias, significación económica y profesional del magisterio, escuela unificada, neutralismo religioso, bilingüismo, conducción, descentralización administrativa y autonomía universitaria. La era civil impidió el desarrollo de todo lo proyectado, pero aún así los avances fueron significativos. À cela s'ajoute le droit de vote obtenu en 1933, dont j'ai déjà parlé, le droit à exercer des fonctions interdites aux femmes jusqu'alors, comme celle de notaire par exemple, ou encore des fonctions politiques. On peut rappeler que Margarita Nelken, Clara Campoamor et Victoria Kent deviennent les premières femmes députées en 1931. Il y a aussi la valorisation du mariage civil ou le droit à divorcer en 1932, l'égalité de la possession des biens dans le mariage et la reconnaissance des enfants illégitimes. Ces avancées progressistes se confrontent néanmoins au rejet d'une partie de la société espagnole héritant des valeurs conservatrices fortement ancrées, même chez les femmes. Mercedes Yusta, par exemple, dans ses travaux, explique que, je la cite, « La repentina visibilidad de las mujeres también tenía sus detractores. Para los antirrepublicanos era todo un símbolo de lo que se avecinaba con el nuevo régimen, la pérdida del hogar, del recinto privado, del recato. » La campagne électorale de 1933, où les femmes voteront pour la première fois, montreront par leurs résultats que celles-ci sont encore très dépendantes de leur conjoint et que leur vote est clairement influencé par le mari, quand ce n'est pas par le confesseur. L'expérience de la Seconde République expose l'inadéquation entre la vélocité du progressisme réformateur des républicains et la lenteur de l'éveil des consciences chez la plupart des citoyens espagnols, en particulier des femmes. La guerre civile, puis la dictature franquiste, surgissent dans ce contexte et amorcent un retour en arrière en termes de progression des femmes dans la société espagnole. Il faut donc comprendre que la femme de la fin des années 1920 ou du début des années 1930, au moment où écrit García Lorca, se situe dans une position d'entre-deux. Entre d'une part le poids pesant de la tradition où l'impératif de la maternité et l'exclusion de la société civile sont toujours en vigueur, et d'autre part l'annonce d'un progressisme fulgurant qui se concrétisera avec l'arrivée de la Seconde République. Dans ce sens, la femme est à un seuil entre deux espaces, celui du foyer qui représente la tradition et l'enfermement de la femme, et celui de la rue qui représente son émancipation. C'est cette image du seuil que nous nous proposons de développer dans la réflexion suivante, espace intérieur, espace extérieur et seuil. Dans La Zapatera prodigiosa, l'idée de seuil, c'est-à-dire d'une frontière entre un espace intérieur et un espace extérieur, est à la fois littérale et symbolique. Littérale parce que ce seuil apparaît à travers deux objets présents sur la scène qui sont la fenêtre et la porte, qui sont d'ailleurs franchis à plusieurs reprises par les différents personnages, à l'exception de la savetière, sauf au tout début de la pièce, quand elle entre sur scène, et nous reviendrons sur ce passage. Symbolique aussi parce qu'il peut être interprété à la lumière de la situation de la femme dans la société espagnole. Dans sa thèse, le discours didascalique et ses enjeux dans le théâtre de Federico García Lorca, Sandra Garnero propose justement une étude des espaces et souligne la richesse symbolique de la fenêtre et de la porte, éléments qui ouvrent aussi bien qu'ils ferment sur l'extérieur depuis l'intérieur. Elle cite le philosophe Bachelard pour rappeler les significations symboliques de ces objets et explique ainsi que, donc c'est cette citation qui cite à son tour Bachelard, donc on a une mise en abîme de la citation ici, elle dit « À la lumière des mots de Bachelard à propos de l'extrême importance des portes dans la définition même de l'être humain, alors, à la surface de l'être, dans cette région où l'être veut se manifester et veut se cacher, les mouvements de fermeture et d'ouverture sont si nombreux, si souvent inversés, si chargés aussi d'hésitation, que nous pourrions conclure par cette formule « l'homme et l'être entrouverts ». Nous pouvons conclure que la femme et l'être à jamais fermé. Bachelard poursuit en affirmant « Comme tout devient concret dans le monde d'une âme quand un objet, quand une simple porte vient donner les images de l'hésitation, de la tentation, du désir, de la sécurité, du libre accueil, du respect. On dirait toute sa vie si l'on faisait le récit de toutes les portes qu'on a fermées, qu'on a ouvertes, de toutes les portes qu'on voulait rouvrir, qu'on voudrait rouvrir. Toutes les portes sur la scène sont vouées à refléter par leur manque de mouvement et leur immobilité l'absence de vie des personnages féminins qui, comme les portes de leur maison, sont définitivement fermées à tout désir et à toute forme de vie. » Sandra Garnero fait donc directement le lien entre enfermement et féminité et rappelle la situation de la femme dans les premières décennies du XXe siècle en Espagne qui devait se cantonner à l'espace du foyer, donc à l'espace intérieur. Dans ce sens, la savetière semble avoir bien conscience de la dualité entre intérieur et extérieur et le rapport qui peut être fait avec la condition féminine. Ainsi, lorsqu'elle dit « Es que en este pueblo no podemos hablar con nadie, por lo que veo, en este pueblo no hay más que dos extremos, o monja o trapo de fregar », elle identifie bien que la femme ne peut être qu'à un extrême ou à un autre, que dans un espace clos, donc le couvent fermé et isolé de la nonne, ou dans un espace ouvert, l'espace public de la prostituée. Pourtant, et c'est là où elle est prodigieuse, elle se place elle-même à la frontière, au seuil de ces deux espaces, et c'est ce que nous nous proposons d'étudier ici. Donc je commencerai avec cette idée de la fenêtre comme seuil des espaces intérieurs et extérieurs. Dans l'œuvre, le lieu qui agit comme seuil est celui de la fenêtre. Il est le plus intéressant à étudier dans les 10e et 11e scènes du premier acte, lorsque la savetière s'y trouve et qu'elle fait l'objet des galanteries de deux prétendants, Don Mirlo, puis le personnage appelé El Mozo de la Faja. Dans ces deux scènes, les didascalies indiquent que ce sont les personnages masculins qui bougent et s'approprient l'espace par leur corps et leurs gestes. Ainsi, la 10e scène commence avec la didascalie qui indique que « Aparece en la ventana Don Mirlo, viste de negro, frac y pantalón corto. Le tiembla la voz y mueve la cabeza como un muñeco de alambre. » Outre la poésie de cette didascalie et ses possibilités interprétatives pour le lecteur, le metteur en scène et le comédien, on peut se demander en quoi consiste le mouvement de bouger la tête comme un muñeco de alambre. Et on peut rappeler aussi ici, à titre d'anecdote, que García Lorca, enfant, composait déjà des pièces avec des marionnettes. On peut aussi souligner, déjà dans un premier temps, l'opposition entre une attitude active par le mouvement, on a le verbe « apparecer », l'expression d'un son avec le surgissement de la voz, et la manifestation d'un mouvement, comme l'indique le verbe « mueve », qui va croissant, puisqu'une prochaine didascalie indique « acercándose más », et qui s'oppose à un personnage féminin de dos et non réceptif. On a la didascalie qui est, en parlant de la zapatera, qui dit « sin mirar y vuelta de espalda a la ventana ». Cette didascalie montre que la savetière parle pour soi-même et qu'elle se trouve dans une position de passivité ou de rejet, de non-réception de ce qui provient de l'extérieur. La suite des didascalies nous montre un personnage qui semble se résigner suite au rejet de la savetière, mais qui finit par réussir à la faire réagir en lui éternuant dessus, scène qui doit être assez comique à monter, je pense. La violence de la scène réside d'une part dans sa façon de tourner en ridicule la fameuse scène romantique du balcon, d'autre part par la réaction de la savetière qui peut se défendre et repousser Don Mirlo, et enfin dans la mise en scène d'un personnage qui s'introduit aux dépens de l'héroïne en franchissant ce seuil de la fenêtre depuis l'extérieur vers l'intérieur. La 11e scène répète le même schéma. On a un homme qui s'introduit sur le seuil dans l'espace de la fenêtre. Vous voyez à l'écran, on a la citation « En la ventana se para el mozo de la faja ». La réplique de la savetière « Exactamente igual que usted » au constat du jeune homme « C'est Tomal fresco, sabaterita » vient placer les deux personnages sur un pied d'égalité que le mozo tente d'annuler en établissant une hiérarchie qui minimise la savetière à travers, par exemple, de l'emploi du diminutif sabaterita, d'une part, à travers l'expression d'une peine quand il dit que lastima, d'autre part, et on voit que la savetière n'accepte pas et que cela provoque chez elle une colère, comme l'indique la répétition de l'adjectif agria dans les didascalies. Ce qui me semble très intéressant dans cette scène, c'est à nouveau la capacité de la savetière à refermer sa fenêtre, comme l'indique la didascalie à la fin de la scène, cerrando violentamente la ventana, qui renvoie également au geste de la première scène de fermer la porte. Dans la citation précédente, on avait entra dando un fuerte portazo, pas dans la citation, dans la toute première scène de l'œuvre. La première scène et ce geste ici rappellent la violence à la voix physique et verbale de la savetière. Elle rejette le jeune homme quand elle se rend compte que celui-ci agit comme un prétendant et annule donc toute la construction de la scène du balcon comme topos de la scène de séduction. Les dernières phrases que j'ai déjà citées précédemment montrent donc d'une part l'annulation du lieu de la fenêtre et donc plus largement du balcon comme lieu du désir amoureux et d'autre part l'expression d'une impossibilité pour la femme de se trouver dans un entre-deux au niveau d'un seuil où elle ne serait ni la femme cloîtrée, ni la femme de petite vertu, abordable par quiconque. Pour finir cette interprétation, j'aimerais citer la réflexion de Raquel Villamila Serra qui propose l'idée suivante dans son article « Modos trágicos, la zapatera prodigiosa y te he de querer mientras viva ». Je la lis. En la zapatera conviven enfrentadas dos maneras distintas de ser mujer, la tradicional y la moderna. La new woman decide abiertamente rebelarse contra su destino de mujer domesticada que no está enamorada de su marido y cuyos deseos sexuales se inspiran en amores pasados. Ella misma resume el dilema moderna de la nueva mujer española. Por lo que veo en este pueblo no hay más que dos extremos, o monja o trapo de fregar, o yo, todo menos esclava, quiero hacer mi santa voluntad. Es evidente escuchar en estas palabras las reivindicaciones de Carmen de Burgos sobre el derecho al trabajo o la denuncia de la influencia de la Iglesia Católica en la mujer de Belén de Sárraga, o la visión del matrimonio de María Martínez Sierra, entre otras muchas voces feministas. La savetière est, selon moi, un personnage qui se situe à un seuil parce qu'elle fait le lien entre un intérieur et un extérieur. Durant toute la pièce, elle ne sort jamais de l'espace de sa maison. Pourtant, plusieurs éléments lui permettent de faire la jonction entre ces deux espaces. C'est d'abord ce que l'on peut interpréter en observant le personnage de l'enfant, El Niño, qui vient rapporter les actions, opinions et chansons de l'extérieur dans l'espace intérieur. Ainsi, quand l'enfant chante les chansons dans la scène 2 de l'acte 2, que l'on invente à son propos, la savetière accède à l'extérieur sans avoir à sortir de son espace intérieur. De la même façon, lorsqu'on l'accuse d'être l'instigatrice du duel entre Don Mirlo et El Mozo, les autres personnages la rendent coupable d'agir sur l'espace extérieur sans avoir mis le pied dehors. Je pense qu'en ce qui concerne l'enfant, on peut interpréter ce personnage comme ce qu'est la savetière avant d'être femme. L'introduction de l'édition de 1987 aux éditions Alianza Editorial, rédigée par Mario Hernández, explique que lors des représentations de la pièce du vivant de Lorca, l'enfant était toujours joué par une petite fille. Est-ce que ce serait alors là la projection d'une savetière enfant, libre de sortir de l'espace de la maison parce que, n'étant pas encore femme, elle n'a pas les obligations qu'exige le mariage? C'est une question que je me pose. On en a parlé avec Lina, qui voyait dans cet enfant l'enfant que la savetière n'a pas. Je pense qu'on peut l'interpréter de plusieurs façons. D'une autre manière, elle fait la jonction entre extérieur et intérieur en invitant les personnages de l'extérieur à l'intérieur. La 14e scène expose la maison transformée en taverne et plusieurs hommes, dont le maire, peuvent ainsi s'introduire dans l'espace fermé de la savetière. L'extérieur est toujours présent dans cette scène grâce à nouveau à l'objet qu'est la fenêtre. Ainsi, une didascalie nous apprend-elle que, je la lis, « Por la ventana pasan dos majas con inmensos abanicos, miran, se santiguan escandalizadas, se tapan los ojos con los pericones y a pasos menuditos cruzan. » On retrouve à nouveau une attitude d'infiltration de l'autre depuis l'extérieur vers l'intérieur, dans un espace intime qui ne l'est plus à ce moment-là, car il est transformé en taverne, et donc le jugement de ces femmes qui veulent franchir la frontière entre les deux, le jugement de ces femmes sur la femme qui veut franchir la frontière entre les deux espaces, chose considérée comme inacceptable par les regards extérieurs. Enfin, j'aimerais parler à nouveau de ce désir de la savetière de flouter la frontière et effacer le seuil entre intérieur et extérieur qui apparaît dès la première page de l'œuvre, au moment de l'intervention du personnage de l'auteur dans le prologue. Quand celui-ci parle, il est soudain interrompu par la savetière, chose indiquée à nouveau par une didascalie qui dit « Se oyen las voces de la zapatera ». Ce mot de voces, à comprendre par cri, rappelle la violence de l'expression de la savetière qui ne peut s'exprimer qu'en criant, qu'en faisant éclater et en imposant sa parole. En s'adressant à la deuxième personne du singulier, donc directement à son personnage, et en employant les impératifs négatifs ou affirmatifs, il lui dit par exemple « No tengas tanta impaciencia, a empezar tu llegas de la calle », le personnage de l'auteur dans le prologue donne une dimension métalittéraire à son œuvre qui semble se créer d'elle-même et brouille la frontière entre fiction et réalité. On peut identifier là un phénomène déjà en vogue dans la littérature de la première partie du XXe siècle. Rappelons à titre d'exemple la fin du roman Niebla de Unamuno, où le personnage entame un dialogue avec l'auteur de son histoire. On est à ce moment-là dans l'après-guerre, puis le milieu des années 1920, dans un contexte littéraire qui voit l'émergence de l'ultraïsme, mouvement littéraire qui naît à la fin de la Première Guerre mondiale dans un désir de rupture avec la tradition littéraire, de création d'un art inédit et totalement libre dans l'exploration des formes, qui reprend des motifs populaires à travers les thématiques abordées et les formes poétiques employées. Par exemple, Lorca revient au romance, à la copla, on a aussi Alberti qui revient aux cancioneros médiévaux. Et donc on a cette opposition au théâtre bourgeois et conventionnel. La savetière ne parle pas dans cette première scène et l'injonction « silencio » lui empêche tout type de parole. Pourtant, elle est déjà présente par les bruits qu'elle émet en hors-scène, dans l'espace extérieur au plateau, et qui s'immisce sur scène, puis par l'emploi de la deuxième personne du singulier de l'auteur qui, s'adressant à son interlocutrice, on a par exemple « tu traje y tu lucha »,« te agitas », la rend présente, la crée dans l'imaginaire du public en la décrivant. Il lui dit par exemple « un traje de zapatera » et la rapproche de celui-ci par la comparaison « tu traje y tu lucha serán el traje y la lucha de cada espectador sentada en su butaca ». Puis finalement, on a son apostrophe « zapatería prodigiosa ». Enfin, les dernières phrases de cette citation « a empezar tu llegas de la calle » dont la valeur performative rappelle à nouveau la dimension théâtrale de l'œuvre qui se présente d'emblée comme un art poétique et étonnante par l'espace qu'elles évoquent, la calle. Le premier mouvement de la savetière est donc celui qui va depuis l'extérieur vers l'intérieur. L'auteur enferme son personnage et le libère en même temps. Ce sont les voix de la savetière qui demandent la libération sur scène du personnage, mais cette entrée sur scène est aussi un enfermement dans l'espace dramatique, qui est de la même façon l'espace de l'enfermement de la femme. Cette dernière citation permet également de percevoir le lien, exposé dès la première phrase du texte, qui est tissé avec le public. La dernière partie de cette étude analysera justement la place, l'espace du public. Le dernier espace que j'aimerais évoquer ici est celui qui appartient au public. La dimension métalittéraire du prologue d'une part et les mises en abîme du deuxième acte d'autre part permettent d'interroger quelle est la place, le lieu du public dans la zapatera prodigiosa. Au cours de mes lectures, j'ai pu trouver cette citation de Lorca. El teatro se debe imponer al público y no el público al teatro. Elle me semble intéressante parce qu'elle présente le public comme victime, comme être passif, comme la savetière dans une certaine mesure, qui vient subir le théâtre et se faire manipuler par celui-ci. Le titre de l'œuvre, La Zapatera prodigiosa farsa violenta en dos actos, exprime une violence qui peut être celle de la condition de la femme dans les années 1920 ou celle du personnage de la savetière et de sa parole. La violence est aussi présente dans l'attitude des personnages masculins qui s'imposent physiquement ou celle du savetier qui abandonne sa femme. C'est aussi celle des personnages féminins extérieurs qui se font métonymie du regard et du jugement culpabilisant de la société. Mais j'aimerais également me demander si cette violence ne serait finalement pas aussi celle subie par le public, ballottée par l'acte dramatique. Pour étudier l'espace du public, j'aimerais commencer avec une étude rapide du prologue. Je pense qu'il est facile de trouver des analyses linéaires de celui-ci et que plusieurs enseignants ici ont prévu ou ont déjà analysé cette scène avec leurs étudiants. Mon objectif, c'est donc de relever uniquement les éléments qui mettent en avant les dynamiques entre les espaces. Dans un premier temps, je pense que l'on peut interpréter, à partir de la toute première didascalie qui dit « Sobre cortina gris aparece l'autor », que le personnage de l'auteur se situe, comme la savetière, à un seuil. Il est personnage et appartient au monde dramatique, c'est-à-dire fictif, tout en renvoyant à la figure de l'auteur réel, Lorca, et en faisant le lien avec le public réel par l'apostrophe qui ouvre sa réplique. Ce rapport duel entre fiction et réalité apparaît plus tard dans l'opposition entre les mots « realidad » et « fantasía » dans la phrase « lucha contra la realidad que la cerca y lucha con la fantasía cuando esta se hace realidad visible ». De plus, l'auteur se positionne devant le rideau qui n'est pas encore levé, mais sur la scène. Il est donc bien à cette frontière entre réalité et fiction, entre intérieur, la scène, et extérieur, le public. Cette frontière est à nouveau franchie lorsqu'il s'adresse tout d'abord au public pour, dans un deuxième temps, s'adonner à un monologue intime quand il dit « Non, respetable público no, público solamente. Y no es que l'auteur no considera el público respetable. » Dans ce passage, le personnage de l'auteur s'expose en train de créer, et rappelons ici que le mot poeta signifie justement créateur, artisan. L'auteur, dans cette dimension métalittéraire, se montre donc en train de fabriquer le texte sous les yeux du public, montrant ainsi un théâtre qui expose son processus de création, ce qui se trouve en fait derrière le rideau, et faisant participer le public au processus créatif. Le public n'est plus exclu de l'acte dramatique, comme c'était le cas dans le théâtre jusqu'alors. Enfin, j'aimerais souligner le vocabulaire de l'enfermement que l'on peut remarquer dans ce prologue. On a les mots « encajada »,« limité »,« contra las paredes »,« enjaulada »,« esta prisión ». La scène, et de manière métonymique l'œuvre théâtrale, s'affiche comme le lieu où l'auteur enferme une réalité et une vérité que le public doit reconnaître. Le texte adopte ici un mouvement cyclique, puisque l'auteur suggère qu'il part de ce qu'il a observé dans la réalité pour le reproduire dans la fiction, afin que cette fiction soit reconnue comme réalité par le public. Ainsi, le texte théâtral devient expression, on trouve d'ailleurs le verbe expresar proche du mot mission dans le texte, c'est-à-dire selon le sens étymologique du nom, du mot, l'action de faire sortir, et de plus suivi du jaillissement de l'eau et de la lumière verte du chapeau de l'auteur. La fiction peut sortir de la scène pour s'épancher dans le réel et l'adresse au public est l'une de ses formes. Mais ce mouvement peut aussi adopter la direction inverse qui consiste à créer la fiction dans la fiction pour permettre au public de se reconnaître lui-même sur scène. C'est donc la thématique de cette dernière sous-partie, la mise en abîme pour faire du public le public de lui-même. Et j'aimerais commencer avec une citation de Anne Hubersfeld, grande spécialiste du théâtre, qui écrit dans le premier tome de « Lire le théâtre », je la lis, « Un point particulier, celui du théâtre dans le théâtre, de la perception par le public d'une zone particulière de l'espace scénique où se joue une histoire qui est le théâtre par rapport à ce qui se passe sur l'ensemble du plateau. Cet effet de théâtre dans le théâtre ne peut pas, on le sait bien, aujourd'hui, se limiter au théâtre baroque. » Il est présent presque partout, sous des formes diverses, aussi bien dans Shakespeare que dans Brecht. Tout se passe comme si une part de l'espace du théâtre disait « Je suis l'espace du théâtre, je ne suis pas le référent du monde » et prenait pour public une autre part de ce qui figure sur l'air de jeu. Il serait très important d'étudier ce fonctionnement triangulaire, scène, public, théâtre dans le théâtre. Elle annonce donc l'éloignement, la mise à l'écart du public qui opère au moment de créer la mise en abîme, qui se fait lorsqu'une pièce de théâtre a lieu dans la pièce de théâtre et que le personnage devient à son tour spectateur. Dans La Zapatera Prodigiosa, la mise en abîme dure longtemps et se fait au cours de la quatrième scène du deuxième acte en employant plusieurs formes. En effet, dans cette scène, le savetier apparaît déguisé en marionnettiste. Il y a donc une première forme de théâtre dans le théâtre, celle de la pièce de théâtre de marionnette destinée au personnage de la pièce. On a déjà dit que Lorca était amateur des pièces faites avec des marionnettes. Et une deuxième mise en abîme a lieu lors du dialogue entre le savetier et sa femme, puisqu'ils mentent tous les deux. L'un en prétendant être autre qu'il n'est, l'autre en réinventant un mari qui ne correspond en rien à celui qu'elle a eu. Par ailleurs, le jeu de mise en abîme est conforté par la répétition d'éléments qui apparaissaient dans le prologue de l'auteur. Quand le savetier dit « respetable público, oigan ustedes », il nous évoque par l'emploi de l'adjectif « respetable » et par l'apostrophe « público » l'auteur hésitant qui fait une pause dans sa réflexion et la mise en rhétorique de la première page. Il y a donc un déplacement sur la scène du public qui peut s'observer lui-même et du personnage qui devient auteur, metteur en scène et lui-même public. Cela évoque également la comparaison entre la savetière et le public que faisait l'auteur dans son prologue. Le public s'observe cette fois lui-même sur scène puisqu'il observe les personnages en tant que public. Ce télescopage fonctionne d'autant mieux que c'est justement l'histoire du couple de savetiers qui est racontée sur scène et reproduite dans la mise en abîme. D'une autre manière, j'aimerais attirer votre attention sur l'espace extérieur évoqué dans les dialogues et qui est caractérisé par son éloignement grâce au superlatif « des muy lejísimos » ou par la répétition de la phrase impérative « échele usted leguas » mais qui contraste avec l'espace extrêmement proche à chacun de l'intime que suggère le faux métier du savetier puisque quand on l'interroge sur ce qu'il fait, il répond « Ah, es un trabajo de poca apariencia y de mucha ciencia. Enseño la vida por dentro. » Ainsi, la représentation théâtrale est montrée comme l'acte qui permet de regarder l'intérieur dans l'extérieur. Ici, les mots « apariencia » et « ciencia » qui s'opposent par les pronoms indéfinis les précédents, « poca » et « mucha », jouent également sur le sens de l'extériorité et de l'intériorité. Il est alors intéressant que celui qui prétend dire le vrai le fasse en camouflant son véritable visage, chose qui expose le caractère ambigu, ni tout blanc ni tout noir, jamais dans l'extrême mais plutôt dans un entre-deux, dans un seuil, des personnages de Lorca. Pour conclure cette analyse, j'aimerais souligner le fait que c'est l'enfant qui se doute en premier lieu de la véritable identité du marionnettiste en se questionnant « ¿Dónde he oído yo hablar a este hombre ?» puis en suggérant à la savetière « ¿No te parece el titiritero hablando a tu marido ?» À nouveau, je m'interroge sur la fonction de ce personnage qui fait la jonction entre intérieur et extérieur et qui est, peut-être à l'instar du public, le seul à ne pas être dupe des manigances de chacun. Au cours de cette réflexion, j'aurais donc essayé de montrer les différentes dynamiques qui rapprochent et mêlent les espaces intérieurs et extérieurs au niveau d'un seuil, d'une frontière, constamment floutée. J'espère avoir réussi à montrer que ces espaces peuvent adopter différentes formes, à savoir une première forme littérale, qui est celle de la frontière entre scène et hors scène, entre l'espace de l'atelier transformé en taverne et l'espace de la rue séparé par la porte ou la fenêtre, ou encore entre l'espace dramatique de la scène et l'espace de réception du public. Ces espaces peuvent aussi être symboliques lorsqu'ils représentent l'enfermement dont est victime la femme dans les années 1920 et 1930 en Espagne, ou lorsque la scène se propose être la représentation de l'intériorité que peut reconnaître comme sienne le spectateur ou le lecteur. S'il y a un point que j'aurais aimé développer davantage et qui me semble intéressant à étudier, c'est, comme vous l'aurez peut-être deviné, celui qui concerne le personnage de l'enfant. Je pense que le personnage de l'enfant dans La Zapatera Prodigiosa est particulièrement riche en termes d'interprétation par sa capacité à transgresser les espaces, puisqu'il va et vient constamment entre la rue et la maison de la savetière, aussi les règles, puisqu'il désobéit à sa mère lorsqu'il lui rend visite, les âges. La savetière semble retomber en enfance lorsqu'elle court après le papillon avec l'enfant. Aussi les genres, par le fait qu'ils soient interprétés sur scène par une petite fille du vivant de Lorca par exemple, ou même la fiction, puisqu'il n'est pas dupe du déguisement du savetier. ce caractère transgressif de l'enfant et ce qui lui donne son intérêt et sa richesse. Et c'est pour cela que j'aimerais conclure en disant que si j'avais été enseignante d'une classe de lycéens et si j'avais pu étudier cette pièce avec eux, je pense que j'aurais beaucoup aimé savoir comment ils perçoivent et interprètent la fonction de ce personnage en particulier. Donc si jamais vous l'avez fait avec vos étudiants et qu'ils ont proposé des interprétations, je serais très curieuse de vous écouter.